littéralement, ou à peu près. On n'a pas de grandes victoires, on n'a pas de grandes défaites, quoique il y a quelques petites places où ça a changé, mais littéralement, le avant-après a fait pratiquement pas de grosses différences. Dans la région de Québec, c'est un copier-coller. Littéralement, tout le monde retrouve sa job. Tous les députés sortants récupèrent leur siège. Il y a Stephen Blaney qui avait lâché avant la campagne, mais que finalement, Dominique Vien, ancienne ministre libérale de Jean Charest, est revenu dans la course pour le Parti conservateur et a aisément gagné dans Bellechasse et Chemin, Lévis, avec 17 589 voix d'avance sur la bloquiste Marie-Christine Richard. Donc, Dominique Vien a obtenu 51% des intentions de vote, Marie-Christine Richard 23,2. Fait que c'était même pas une course serrée. Il y a Denis Trudel à Longueuil qui a failli perdre son siège pour le Bloc, mais que finalement, il l'a obtenu avec 1600 d'avance. Le sort s'est joué, parce qu'encore jusqu'à hier, Brome-Missisquoi n'avait pas de député. Il fallait attendre qu'on ait les résultats finaux avec les votes par la poste. Finalement, c'est la libérale Pascale Saint-Onge avec seulement 186 voix d'avance sur Marie-Lou Allary du Bloc québécois qui l'a remporté, 21 474 à 21 288. Donc c'est extrêmement serré dans le cas de Brome-Missisquoi. Y aura-t-il de recomptage? Sait-on jamais, mais c'est sûr que vu que les résultats ont quand même pris du temps à sortir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en aura un autre, ou en tout cas qu'il y aura un autre comptage, mais sait-on jamais. Sinon, on a identifié la personne qui a obtenu le moins de votes au Canada. C'est du côté c'est du côté du Manitoba. Il a fallu que je fasse la petite phrase pour m'en rappeler. C'est au Manitoba. Dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital, où le gagnant, Dan Vandal, du Parti libéral, est reparti avec 43% des intentions de vote. Mais ce qui est important de préciser, c'est que dans cette circonscription-là, il y avait entre autres Sébastien Corineau, le chef du Parti Rhinocéros, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 amis qui se sont également présentés dans Saint-Boniface-Saint-Vital pour un total de 15 rhinos qui ont tenté de gagner les sièges. Mais bon, peut-être qu'il y a eu dispersion du vote, on va dire ça comme ça, parce que tous ont obtenu à peu près une vingtaine de votes, sauf Konrad Lukowski, qui, lui, en a obtenu 7. Et techniquement, ça veut dire que Konrad Lukowski est celui qui a obtenu le moins de votes à travers le Canada au grand complet avec son faible score de 7. Mais comme je le disais, ils ont été 15 à se disperser le vote entre eux. Évidemment, il n'y en a qu'un seul qui est identifié rhinocéros parce qu'on ne peut pas représenter un même parti plus d'une fois dans une même circonscription, ce qui fait en sorte que les 14 autres ont dû se présenter comme étant candidats indépendants. Mais ça se faisait en sorte que les bulletins de vote pour Saint-Boniface-Saint-Vidal, à part des 15 rhinos, il y avait quand même les 5 partis principaux. Donc on arrive à 30, on rajoute Maxime Bernier 31, et il y avait le parti de la coalition des anciens combattants du Canada, malheureusement qui a obtenu seulement 16 voix, mais quand même, donc il y avait 32 noms sur la liste. Il y avait 22 noms sur la liste, ce qui fait quand même un nombre assez important de candidats, mais ce qui faisait aussi que les bulletins de vote étaient extrêmement longs. Le but avoué du Parti rhinocéros, c'était d'obtenir le plus long bulletin de vote de l'histoire des bulletins de vote au Canada. au point où il serait peut-être obligé de changer de format de feuille, sait-on jamais. Mais le but, en tout cas, d'ici une prochaine élection, ça serait d'avoir le plus de noms possible sur un même bulletin de vote. Record Guinness qui tente d'établir du côté du Parti Rhinocéros. Pourquoi pas? En fait, chacun a obtenu ses 150 signatures pour s'inscrire, donc c'est quand même un bon projet. Je ne sais pas si à quel point on peut signer différentes personnes, mais bon, ça, c'est des technicalités. Mais voilà, ça se passait du côté de Saint-Boniface-Saint-Vital. Et sinon, ben, dans quelques luttes qui étaient serrées ou qui étaient à suivre au courant de la soirée électorale, ben, il y avait Trois-Rivières notamment, où le Bloc a remporté par uniquement 93 voix sur Yves Lévesque. Donc, c'est René Villemur du Bloc québécois. C'est un gain pour le parti dit François Blanchet, qui termine sa course à 33. On se souviendra qu'il a terminé, qu'il est en fait qu'à la dissolution de la Chambre, il est à 32, il est monté à 33. Donc, un député supplémentaire. Comme je le disais, Brome-Missisquoi qui s'est réglé à 186 votes. Dans la région de Toronto, il y a une libérale qui l'a remporté par 165. Si on reste du côté québécois, à Châteauguay, la colle, 606 voix d'avance pour le bloquiste sur la députée sortante Brenda Shannon. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'autant qu'on est revenu avec à peu près les mêmes chiffres, autant qu'il y a eu des luttes qui étaient serrées où il y a eu des échanges de résultats électoraux. Donc autant qu'à Berthier-Masquinongé, Ruth Hélène Brosseau a frôlé la victoire dans Berthier, ben c'est Yves Perron qui est reparti avec 988. Même chose du côté de Beauport-Limoilou, ça a été une lutte à 3 pendant une bonne partie de la soirée. C'est la libérale à Anne Gingras qui dominait dans Beauport-Limoilou, donc on pouvait s'attendre à un gain libéral, mais finalement Julie Vignolant s'est refaufilée devant le Parti conservateur et Alupa Clark avec une avance de 1024. Du côté des Maritimes, Halifax avait quand même été assez serré également. Le NPD qui avait mené pendant une bonne partie de la soirée, mais finalement, le libéral Andy Fillmore avait remporté son pari. On peut dire ça comme ça. Comme je disais, Longueuil-Saint-Hubert, ça a été l'échange à toutes les 15-20 minutes entre Denis Trudel et Florence Gagnon du Parti libéral. C'est finalement Denis Trudel qui est reparti avec le lot. Stephen Guilbeault, finalement, l'a remporté devant Nima Machouf du NPD qui se représentait dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie du côté de Montréal. Finalement, c'est le ministre sortant Guilbeault qui est reparti avec. Ça, c'est pas serré du tout. Fait, qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Thérèse de Blainville, 3122 d'avance pour la bloquiste. Donc, il y a eu... quand même des luttes serrées. Malheureusement, il n'y a pas eu de vraies grosses victoires, ou en tout cas, il n'y a pas eu de victoires éclatantes. Parmi les candidats vedettes, bon, Sherbrooke, on se souviendra qu'Ensaf Haïdar se présentait dans la circonscription de Sherbrooke, mais Isabelle Brière, députée sortante du Parti libéral, avait une confortable avance de 4982 voix. Donc, ça n'aura pas été suffisant pour pouvoir... pour Mme Ensaf de pouvoir remporter la circonscription de Sherbrooke pour le Bloc québécois. Sinon, dans les autres candidats vedettes, ben, Nabila Ben Youssef, qui était, ben, qui est toujours humoriste, sauf erreur, qu'on voyait un petit peu moins, se présentait dans la circonscription de Justin Trudeau. Donc, elle avait des grosses manches à relever si elle voulait battre Justin. Malheureusement, elle a terminé troisième avec un retard de 15 000 voix sur Justin, avec 15 % des intentions de vote. Devant elle, la NPD, Christine Paré à 22. Évidemment, Justin a remporté la moitié, ou un petit peu moins que la moitié, des intentions de vote dans Papineau avec 49,5. Candidat vedette dans Québec, Louis Sanfasson, qui a terminé deuxième quand même avec un retard de 3200 voix. Jean-Yves Duclos qui est reparti beaucoup plus facilement avec la circonscription de Québec cette fois-ci. Notons quand même, c'est pas un beau chiffre, notons quand même que Tommy Bureau a fini avec 6666 voix. C'est tout. C'est le chiffre, il parle de lui-même, il est assez... Il est assez sympathique. Nancy Drolet, médaillée olympique et championne du monde de hockey féminin, n'a pas remporté son pari de devancer Alexandre Boulris dans Rosemont, la petite patrie, avec un retard de 14 000 voix. Donc, c'était assez difficile de gagner cela. Le député sortant Derek Sloan, le sosie du commandant Waterford dans La Servante écarlate, sans affiliation, non pas indépendant, mais s'est présenté pour les sans affiliation, n'a obtenu que 2000 voix. Il s'était présenté à la chefferie du Parti conservateur. Finalement, c'est Andrew Scheer qui avait été préféré. C'était-tu Andrew Scheer? Oui. Il était maintenant député indépendant depuis. Finalement, ben les gens de Banff, Airdrie, ont été fidèles au Parti conservateur pour donner la victoire à Blake Richards, député sortant. Ah, bizarre. Ah non, ah, OK, Derek Sloan a changé de circonscription. Ah, c'est ça, il est dans Saskatchewan, me semble. Donc, il a changé de circonscription pour les sans-affiliation, s'est présenté dans Banff et n'a même pas opté. Ah, accuse un retard de 41 000 voix sur le député conservateur Blake Richards avec seulement 2 000 voix. Parti raté dans le cas de Derek Sloan qu'on ne reverra pas de sitôt. Chicoutimi-Lefier, Richard Martel, candidat vedette lui aussi, lieutenant québécois de Drew Scheer, maintenant qui se présentait dans Chicoutimi-Lefier. Ça a été serré pendant une partie de la soirée également avec le Bloc, mais finalement, il est reparti avec 3195 voix d'avance sur sa plus proche rival. Et finalement, le doyen de la Chambre des communes avec le record de longévité pour un élu francophone à Ottawa, ironiquement avec le Bloc québécois, c'est Louis Plamondon dans Bécancour-Nicolet Sorel qui a été élu à Ottawa depuis 1997 et se représente dans la circonscription et il l'a remporté facilement avec 19 000 voix d'avance. Et sinon, le point majeur qu'il y avait à noter dans cette campagne électorale-là, c'est que Maxime Bernier, en fait, rend quand même un bon score, même s'il n'a pas eu de député élu, puisqu'il est tout de même reparti avec 842 284 voix, soit 5% des intentions de vote. Ce qui veut dire qu'au prochain débat électoral, Maxime Bernier aura sa place autour des lutrins du débat des chefs, puisque cette année, il lui fallait 4% des intentions de vote. Il ne les avait pas au moment du déclenchement de la campagne, puisqu'il était autour de 2,5. Il a réussi à doubler son nombre de vote. Maintenant, il a un argument pour pouvoir se présenter à l'Assemblée, au débat des chefs, pas l'Assemblée, mais au débat des chefs. Malheureusement, pour le Parti vert, ce ne sera plus le cas, puisque comme dans les règles, il faut avoir... Ah non, le Parti vert va quand même pouvoir être là, mon erreur, puisqu'il n'a pas 4% des intentions de vote, puisqu'il termine sa course à 2,3. Un ami Paul, d'ailleurs, qui n'a pas été élu dans sa circonscription non plus. Maxime Bernier en Beauce a mangé une assez bonne raclée puisque Richard Lehoux est reparti avec 17 141 voix d'avance. Donc, c'était même pas serré cette année pour la Beauce. Dans le cas des Verts, ils ont tout de même deux députés élus en Chambre, soit Elizabeth May du côté de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, pardon, et l'autre député vert, je pensais qu'il était en Ontario. Oui, il est en Ontario, dans Kitchener Centre. Mike Morris, qui a remporté la circonscription de Toronto Centre, puisque le député sortant libéral avait été... Il y avait des allégations d'inconduite contre Raj Saini. Il a techniquement abandonné la course, mais parce qu'il a abandonné la course après que les bulletins de vote aient été imprimés, évidemment, il ne pouvait... son nom apparaissait tout de même Voilà sur le bulletin de vote. Mais les gens de la circonscription, en fait, techniquement, le caucus libéral aurait dit voter pour les Verts. Donc, chose qui a été faite. Donc, c'est Mike Morris dans Kitchener Centre. Ce qui veut dire, et ce qui a fait dire à plusieurs analystes, que ce n'est pas grâce à Amélie Paul si elle a eu un gain, puisque c'est la machine libérale qui a dit voter Parti Vert. Et dans le cas de Saanich Gulf Island, Elizabeth May a remporté extrêmement facilement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour son mari dans Nanaimo Lady Smith, puisque Lisa Mary Barron du NPD est en avance. Techniquement, on n'a pas terminé de compter le vote par anticipation, mais elle a quand même 1000 voix d'avance. Ça ne devrait pas arriver d'être le cas, être serré à cause du vote postal, mais c'est pas encore tout à fait fini dans Nanaimo Lady Smith, mais dans le cas de Paul Manley, c'est terminé pour lui, qui ne regagnera pas son siège vert. Donc c'est un moins 1 plus 1 dans le cas des Verts, et tout ça n'est pas grâce à Annemie Paul, bien évidemment, parce que pour finir la parenthèse sur le débat, ce qu'il faut pour pouvoir être au débat, c'est d'avoir au moins 4% des intentions de vote, maximum à 5, ou il faut avoir un député élu en chambre. Les partis verts ont le député élu, mais dans le cas de Maxime Bernier, la première fois, il pouvait se présenter au débat parce qu'il avait changé d'affiliation pendant son élection, pendant qu'il était chez les conservateurs, il avait parti son propre parti. La deuxième fois, cette année, il ne pouvait pas participer parce qu'il n'avait pas, comme je le disais au début de la campagne électorale, il n'avait pas les 4%, il n'avait pas de député élu en chambre et il n'avait pas de circonscription où il était sûr de faire un gain. La troisième règle est un peu floue, mais c'est à peu près ça. Au retour, on s'arrête, on fait une courte pause musicale. Au retour, on parle de ce que Maxime Bernier a réussi à faire, c'est-à-dire dissoudre le vote des conservateurs. Et il ne l'a pas fait qu'une fois. Il l'a fait quand même à 18 reprises, où, justement, les libéraux de Justin Trudeau et le NPD de Jagmeet, un peu plus dans l'Ouest cette fois-ci, ont réussi à se faufiler parce que le Parti conservateur rentrait un petit peu moins fort que prévu parce qu'il y avait dissolution avec le Parti populaire. On regarde ces circonscriptions-là tout de suite après Hubert Lenoir avec sa nouvelle pièce dimanche soir. Vous écoutez le deuxième service post-mortem des élections sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. De retour au deuxième service. Juste avant la pause, un petit graphique que j'en parlais qui a retenu l'attention sur Twitter notamment, où on faisait le calcul du vote conservateur plus du vote populaire et on observait à environ entre 15 et 20 circonscriptions qui auraient pu tomber aux mains du Parti conservateur si ce n'était pas du Parti populaire. Donc, la différence de voix d'avance pour le gagnant NPD ou libéral aurait profité à la deuxième position qui est le Parti conservateur, puisque le vote a été un petit peu dilué avec le Parti populaire. Parce que dans la frange de partis à droite qui se disent à droite sur l'échiquier politique au Canada, il n'y avait jusqu'à tout récemment, que le Parti conservateur unifié depuis Stephen Harper au début des années 2000. Or, une fois que Maxime Bernier est arrivé avec son Parti populaire, ça donnait une version beaucoup plus à droite, je dirais pas extrême droite, mais beaucoup plus à droite que le Parti conservateur en ce moment. Et le recentrage politique que Erin O'Toole a fait pour la campagne électorale, évidemment, ça n'a pas plu à une base conservatrice qui est beaucoup plus à droite que la plupart de ses membres, ou en tout cas qui n'aimait pas nécessairement ce recentrage-là, ce qui les a fait voter probablement pour le Parti populaire s'ils n'ont pas tout simplement annulé leur vote ou s'ils ne se sont pas présentés. Ce qui fait en sorte que cette situation-là s'est répétée, comme je le disais, au moment où le graphique a été fait dans 18 circonscriptions où, si on additionnait le vote populaire au vote conservateur et qu'on le donnait aux conservateurs, ça donnait un député supplémentaire. Donc, dans les 24 occasions qu'il y a là, ça serait un moins 18 au Parti libéral, ce qui les amènerait à 141. Ce qui amènerait le Parti libéral à 141, ce qui descendrait le NPD à 19 et qui donnerait à ce moment-là qui donnerait plutôt un score de 120. Oh, les mathématiques ce matin. 119, ça donnerait un résultat de 141. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait une égalité 139, 140, c'est 41? On aurait eu une égalité libéral-conservateur avec 141 députés chaque. Si ce n'était pas du fait que le vote avait été dilué par le Parti populaire. Et il faut faire attention. Non, c'est vrai, ça aurait été 142 à 140 parce que, bon, évidemment, le vote postal n'était pas compilé dans le petit tableau en question. Et pour avoir regardé quelques circonscriptions pendant la pause musicale, il y en avait une que même avec le vote postal, le Parti libéral conservait avec l'addition conservateur populaire. Donc, on aurait pu finir la soirée à 142 députés libéraux et 140 députés conservateurs, 33 blocs québécois et 19 NPD. Plutôt que les 159, 19, 33 et 25 qu'on a en ce moment. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup et que Inévitablement, il y aurait eu d'autres élections dans un an et demi parce que ça aurait été beaucoup trop serré. Parce qu'en ce moment, le Bloc québécois, on additionne ça 149, 150, 151, 152. Pour l'instant, même si les conservateurs et le Bloc font front commun contre le Parti libéral, il en manque encore 5. 6. 7. Il en manque encore 7. Donc, le Parti vert ensemble, il en manquerait 5. Les libéraux réussissent à convaincre les NPD, le projet de loi passe. Si le bloc, en fait, si les libéraux réussissent à mettre le bloc de leur bord, c'est terminé pour les conservateurs. Si les libéraux mettent le NPD de leur bord, c'est terminé aussi pour les conservateurs. Donc, en ce moment, il y a une marge de manœuvre. On peut continuer le Parlement comme il l'était avant le déclenchement de l'élection. Mais ça fait quand même beaucoup de coups. Ça fait un 100 millions, le chiffre le plus populaire en ce moment. Ce qui fait également dire que cette élection-là ne servit pratiquement à rien. Quoique, oui et non. Parce qu'au travers de justement le « ça sert à rien », il y a quand même des gens qui se sont prononcés pour dire « on veut que ça reste comme ça ». Arrangez-vous après ça avec vos troupes, faites ça comme du monde, puis tout va bien aller. Ce qui est très vrai. Mais après ça, et c'est l'avantage en ce moment que Justin peut avoir dans cette situation-ci, c'est que maintenant qu'il a affirmé qu'on ne reparlerait plus de politique, parce que vous m'avez envoyé un message clair, vous ne voulez plus qu'on parle de politique. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça qu'il a dit lors de son discours de victoire à la fin de la soirée de lundi, début tôt, mardi matin. En ce moment, si des élections sont déclenchées, c'est parce que le Parti conservateur et ou le Bloc québécois et le NPD, dans ce cas-ci, c'est vrai, il faut que ce soit les trois partis d'opposition pour faire plus que le Parti libéral. Donc, si par exemple le Parti libéral présente un budget et que les conservateurs, le Bloc et le NPD ensemble font une coalition et disent « on veut rien savoir de ton budget, Chrystia et Justin », ben ça fait en sorte que les conservateurs, le Bloc et le NPD sont en position, eux, de déclencher des élections. Donc, à ce moment-là, Justin peut brandir la carte de « moi, je n'en voulais pas d'élection cette fois-ci. C'est l'opposition qui veut une élection cette fois-ci. » Ça, c'est wise quand même. Donc, pour la prochaine élection, si ce n'est pas dans 4 ans et qu'elle est devancée, ce sera maintenant Justin Trudeau qui aura la carte et l'opportunité de faire comme Erin O'Toole cette fois-ci, que les Canadiens ne veulent pas de l'élection. Non, nous ne voulons pas d'élection. Même chose avec le Bloc, avec Yves François qui l'a répété ad nauseam dans les deux premières semaines. Les Québécois ne veulent pas aller en élection. Ils veulent des barbecues. Tu sais, cette espèce de phrase-là un peu bizarre, ben, j'avoue que c'est wise quand même, j'avoue que c'est wise. Donc, en ce moment, la seule chance qu'il y ait des élections qui soient déclenchées d'ici 2025, c'est qu'il y ait une coalition conservateur, Bloc et NPD qui s'entendent les trois pour dire « nous renversons le gouvernement de Justin Trudeau », ce qui va faire dire à Justin à ce moment-là « ben regardez, ce sont eux qui veulent l'élection cette fois-ci ». Ce n'est pas moi. Moi, je voulais faire 4 ans cette fois-ci. C'est les autres en ce moment qui nous envoient en élection. Ce qui pourrait être bon pour le Parti libéral. Donc, l'avenir est compté pour Annamie Paul du Parti vert parce que son parti a maintenant une raison encore plus justifiée de la mettre dehors. Maxime Bernier est sur son nuage dans son coin, intimide les journalistes et est persuadé d'être l'opposition de Justin Trudeau. Le Bloc québécois va continuer à faire sa petite affaire, même s'il n'a pas eu son 40 députés comme le souhaitait Yves François, mais termine quand même avec 33, donc un plus un en termes de chiffres, même s'il y a 4 ou 5 députés qui vont être échangés entre eux. Le Parti conservateur est le plus grand perdant en terminant finalement à 119. Les libéraux à 159, ça prenait une majorité de 170, ne l'a pas obtenu avec un retard de 11 députés pour être, ou en fait pour avoir justifié le déclenchement de l'élection pour devenir un gouvernement majoritaire, chose qui n'est pas faite, mais qui devra faire maintenant une véritable coalition avec et ou le Bloc et ou le NPD pour pouvoir entériner ces projets de loi. Pour, dans le cas de Justin, les quatre prochaines années, si les conservateurs, le Bloc et le NPD ne décident pas de déclencher d'autres élections hâtives d'ici, comme je le rappelle, les quatre prochaines années, donc d'ici 2025, et donner l'opportunité cette fois-là à Justin de repartir, peut-être, avec un gouvernement majoritaire, parce que ce serait la faute des trois autres si on tombait. En élection d'ici les quatre prochaines années. On s'arrête quelques instants. Au retour, on regarde le reste de l'actualité de la semaine parce que oui, il s'est passé d'autres choses dans l'actualité cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez et de ses facs.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
jour. Pourquoi j'ai très souvent des flashbacks?
Laura Lefebvre, qu'on vient d'entendre avec Flashback sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Je l'ai mentionné rapidement tantôt, Maxime Bernier qui a tenté d'intimider, ben, en fait, il a un petit peu réussi quand même, d'intimider des journalistes sur Twitter, publication qui a été supprimée par Twitter eux-mêmes d'ailleurs depuis. Maxime Bernier, qui a, ben, dans sa grande diligence et dans sa grande bonté, a décidé d'insulter des journalistes sur les réseaux sociaux cette semaine, dans une publication mercredi. Maxime Bernier a qualifié 3 journalistes de grands médias d'idiots et a publié leurs adresses courriel en écrivant « Ils veulent jouer sale, nous jouerons sale aussi ». Donc, la base de Maxime Bernier, qui est composée de personnes fâchées, ont pris ces 3 adresses e-mail-là, ont écrit aux journalistes. Il a encouragé, en fait, ses 160 000 abonnés à contacter les journalistes en publiant des extraits de leurs demandes de commentaires après les élections fédérales de lundi, comme preuve de ce qu'ils considèrent comme de la diffamation dégoûtante. Donc, les journalistes de CTV News, Global et Hill Times avaient posé des questions sur l'appui des groupes nationalistes blancs du Parti populaire et sur les craintes de Canadiens racialisés à propos de ce que le Parti représente. Il demandait aussi que si le Parti de Bernier tolérait de possibles actes de haine de la part de certains partisans pendant la campagne électorale. Parce qu'on se souviendra que dans les rassemblements de Justin Trudeau, il y avait beaucoup de pancartes mauves et de gens qui disaient « on va voter Bernier » tout en insultant et en faisant des fingers à Justin Trudeau. Évidemment, ça n'a pas plu à Maxime et a mis l'adresse courriel de job des journalistes de CTV News, Global News et du Hill Times. Le genre de courriel qui était envoyé, c'était évidemment « va te tuer »,« je vais te violer »,« tu devrais pas vivre ». Ce genre de beaux commentaires-là qui étaient encouragés par le chef lui-même. L'Association canadienne des journalistes affirme que ses membres ont l'obligation légale et éthique d'envoyer des questions aux politiciens et le fait de s'en prendre à des journalistes parce qu'ils font leur travail est inacceptable et dangereux. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec joint sa voix également à l'Association canadienne des journalistes pour dénoncer les agissements de Maxime Bernier qui a relayé les coordonnées de journalistes sur Twitter. CBC Radio-Canada a réagi par voie de communiqué dans laquelle elle déclare que ce harcèlement constitue un comportement inacceptable, d'autant plus que ce sont des personnalités publiques qui incitent à insulter et à harceler les journalistes. Un porte-parole de Twitter Canada a déclaré que l'entreprise a supprimé le message contre Maxime parce qu'il a enfreint sa politique en matière de confidentialité. Évidemment, le Parti populaire n'a pas répondu à une demande de commentaire de la part de Radio-Canada. Voilà. Pendant la campagne électorale, certains manifestants contre la vaccination portaient des pancartes du Parti populaire. Le parti a renvoyé même l'un de ses présidents d'association de la circonscription de l'Ontario après que des allégations eurent fait surface voulant qu'il ait jeté le gravier au premier ministre Trudeau lors d'un événement de la campagne à London, en Ontario. Donc, on a retrouvé, c'était qui le gars qui était finalement un employé de Maxime Bernier. Les faits reprochés remontent à dimanche dernier lorsque... Voilà. Shane Marshall a été renvoyé en raison de ces allégations puisque le porte-parole du Parti populaire, Martin Mas, confirme que le président... Shane Marshall a été renvoyé. Le parti n'a pas commenté davantage, pas plus que sa candidature locale, sa candidate locale, Chelsea Hiller. M. Marshall n'a pas fait de commentaire non plus. On se souviendra également, Foreman l'avait repartagé, l'un des coucous les plus notoires de la dernière campagne qui essayait de se présenter dans Drummond, qui insultait ouvertement Valérie Plante sur ses réseaux sociaux, qui voulait se battre avec Mario Dumont de TVA-LCN. Il s'était fait retirer sa candidature également dans Drummond. Ce coucou-là en particulier s'était fait connaître parce qu'il avait une casquette Trump et disait que Donald allait revenir pendant le plus gros de la campagne de Donald avant l'élection de Joe Biden. Le Parti populaire n'a pas répondu non plus à la presse canadienne lorsque l'agence a demandé s'il s'agissait de l'ancien président de l'association de circonscription du parti, Shane Marshall, dans ce cas-ci. Ça n'a pas bien viré, évidemment. Ça n'a pas de bon sens que Maxime Bernier ait pensé que c'était ça une bonne idée d'aller envoyer, promener des journalistes parce qu'il n'était pas d'accord des questions qu'on lui posait, ou en tout cas qu'il n'était pas d'accord de l'angle que les journalistes pouvaient prendre. Oui, évidemment, c'est sûr que ça ne lui donne pas une bonne presse, mais de là à dire « Allez-y, mes fans, écrivez-leur pour qu'ils comprennent qu'on les aime pas », c'est problématique. On va dire ça comme ça. C'est extrêmement problématique, en fait. Donc, voilà pour le dossier de Bernier. Sinon, autre projet, comme je le disais également en ouverture, les conservateurs ne s'entendent pas en ce moment du sort que l'on doit réserver à Erin O'Toole. Le député conservateur albertain Garnet Genius, qui vient d'être réélu, considère que les membres de son parti devraient s'unir derrière le chef Erin O'Toole plutôt que de se demander s'il devrait ou non rester en poste. Le débat est déjà lancé. Certains députés conservateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur soutien à Erin, tandis que d'autres ont été beaucoup plus critiques à l'égard des performances du parti. Un membre du Conseil national du parti a pour sa part lancé une pétition pour réclamer un référendum sur le leadership d'Erin O'Toole avant le vote de confiance déjà prévu en 2023. Vote de confiance qui doit se tenir à Québec, d'ailleurs. Town and Country News, un média albertain, a rapporté que le député réélu Chris Warkentine a déclaré qu'il sentait que la campagne électorale avait tourné en faveur des libéraux lorsque Erin O'Toole a commencé à tergiverser sur certaines politiques. Notamment, une journée, il voulait annuler le bannissement des armes de pointe de Justin Trudeau. Quelques jours plus tard, il y avait un astérisque dans le programme pour dire que finalement, les trucs bannis resteraient bannis, mais pas toutes. Après ça, on s'est demandé si le lobby des armes qui avait voté pour Erin O'Toole s'était pas fait avoir. Fait que tu sais, il y a eu les armes d'assaut. Donc, il y a eu quelques moments ici et là que ça a fait comme « Ah, OK, il n'est pas clair en français ou en anglais. » Évidemment, lorsqu'on lui pose des questions, s'il appuie toujours Jason Kenney, qui en plein milieu de campagne ou en pleine fin de campagne est obligé d'instaurer le passeport vaccinal alors qu'il avait répété à de multiples et multiples et multiples occasions que jamais il n'y aurait de passeport en Alberta, que Erin O'Toole avait dit que Jason Kenney avait fait une bonne job et que finalement, 3-4 jours avant la fin de la campagne, Jason Kenney sort pour dire « Ouais, on est dans le trouble. » Pouvez-vous nous aider? Nous instaurons le passeport vaccinal à partir de maintenant. Fait que, tu sais, l'espèce de déconfiture de Jason Kenney. Jason Kenney, d'ailleurs, qui lui-même est présentement en difficulté dans son propre parti, dans sa propre province, où on pourrait demander, en fait, que certains membres de son équipe voudraient voter, faire un vote de confiance sur Jason Kenney en ce moment et que peut-être il pourrait être échangé et qu'un nouveau premier ministre de l'Alberta pourrait arriver. Ça reste à suivre. C'est vraiment des suppositions pour l'instant. Mais dans le cas d'Erin O'Toole, ce n'est pas complètement gagné de rester en poste, mais en même temps, ce n'est pas non plus une grosse victoire puisqu'il termine pour l'instant à 119 sièges, soit deux de moins que Andrew Scheer puisqu'il avait terminé à 121. Normalement, dans les règles des conservateurs, c'est une défaite, tu débarques. Ce serait une première si Erin O'Toole survivait au vote de confiance, devancé ou dans deux ans, on ne sait jamais, mais habituellement, les conservateurs sont assez directs et assez peu cléments avec leur chef lorsqu'ils ne gagnent pas. Mais encore une fois, qui serait le prochain chef des conservateurs? La question se pose énormément parce que si Andrew Scheer avait perdu face à... si Andrew Scheer avait gagné face à Maxime Bernier, qui lui-même a quitté, Erin O'Toole était troisième. Donc, c'est un deuxième choix, Erin O'Toole. Qui serait le prochain chef des conservateurs? Ce serait assez particulier de suivre ça. Surtout, l'intérêt serait particulier de suivre ça, mais quand même. Au retour, on conclut l'émission de la semaine. On s'en va entendre le petit Béliveau avec les Earwings sur les... Je l'ai très bien dit, mais il dit mieux que moi. Sur les ondes de chez et de ses facs.
More croyac and earwings, c'est un peu pour tes oreilles. L'œil maudit qu'en français, s'il te plaît, une perce-oreille. Ça reste dans la terre jusqu'au soir quand il fait noir. Pour sortir dans la nuit, pour monter sur le hill. Can earwig, c'est un insecte qui vit dans le nord de la marée. De Key West au Grand Lac, de Vancouver à Harichal. Ça mange tout sorte d'herbage, fait que ça tue, ça se prend en garde. Un insecte qui disait, ça fait le mot disputé. Y'a des earwigs partout. De cette ville, Belleville, Woodville, Kiriso, Oriso, Pomnico, Ohio, ma ville, Île Surette, Old Fort, Saint Bernard, Argyle, Bengo, Abbott, Lake Ennis. Dans le mois de mai, dans le printemps, où faut qu'elle cherche du poison. Avant qu'il rentre rien, prends charge de ta maison. Tu vas les arrêter, si tu travailles fort assez, si rentrer en Assemblé par la part, en fait marcher par la mort. Le mot Dieu donne la chance pour faire sûr qu'il pur sera. Si pour bien ou à l'essayer, parions et group holiday. Your days, your week, part two. Your days, your week, part two. Let's get a party for the war. Your days, your week, part two. Your days, your week, part two. Your days, your week, part two. Let's get a party for the war. Your days, your week, part two. Your days, your week, part two. Your days, your week, part two. Let's get a party for the war.
De retour au deuxième service. Nouvelle qui est sortie, ben, en fait, qui est un peu passée sous le radar, parce que ça fait quand même encore sourire aujourd'hui. Fugueuse. La petite Fugueuse est de retour, mais dans une adaptation française. Et ça me fait bien sourire, parce que le titre de la version française qui sera présentée sur, ben, qui est présentée sur les ondes de TF1 s'appelle « Fugueuse prostituée par amour ». Les Français. Donc, malgré quelques différences, l'adaptation française de Fugueuse demeure assez fidèle à la version originale québécoise. C'est ce qui a été constaté après avoir regardé la nouvelle version qui débarque en grande pompe sur TF1 jeudi soir. Hier, mon Dieu. Comptant plutôt 6 épisodes d'une heure, le remake français de l'émission de TVA raconte la descente aux enfers d'une adolescente de 16 ans prénommée Léa, plutôt que Fanny dans notre version à nous. Comme ce que nous avons proposé au Québec en 2018, cette dernière vient d'une famille stricte mais aimante, intelligente et débrouillarde. Elle mène la vie d'une petite fille modèle de banlieue jusqu'à temps qu'elle tombe sous le charme de l'emprise de Nico. Donc Damien dans notre version, Nico dans la version française, un rappeur en herbe, proxénète professionnel. C'est une belle description à la presse, merci. Ce dernier la manipule et l'entraîne dans un monde composé de fêtes, arrosées de drogue et surtout de prostitution. C'est probablement le pire résumé de Fugueuse, mais juste pour ça, ça me faisait énormément de rire. On a interrogé l'auteur, Michelle Allen, si elle était satisfaite de l'adaptation. Elle dit oui, les points sont bons, bien entendu, je sais que ça va arriver, mais je suis happée, pareil, dit-elle en rigolant. Elle a remarqué que certains petits trucs étaient quand même assez différents, notamment l'ami de Fanny, Natacha, qui n'a pas tout à fait le même rôle, qui s'appelle Margot. C'est l'actrice qui s'appelle Margot. Plutôt que d'embarquer Léa, va plutôt présenter Léa à Nico. J'essaie de faire la transposition des prénoms, c'est un petit peu difficile. Donc, c'est très intéressant, amusant et valorisant de voir qu'un projet qu'on a fait ici en passant au public d'ici résonne ailleurs. C'est spécial comme sentiment. Parmi les autres différences dignes de mention, le père de Léa est interprété par Michael Youn, qui on a connu comme étant Fatal Bazooka. Fait que déjà là, en partant, c'est un peu bizarre. C'est un contre-emploi, disons ça comme ça, qui est beaucoup plus... plus envie de tout péter que le personnage de Claude Legault, peut-être, qui, lui, était plus en dedans. Ben, Michael Youn, dans son cas, lui, va être beaucoup plus colérique, beaucoup plus fâché. Grosse différence ici. Fanny se teignait en brune. Et bien, dans la série française, elle porte une perruque. Donc, voilà. Donc, dans les différentes, peut-être serons-nous capables de voir Fugueuse prostituée par amour sur les ondes de tout.tv un moment donné, ou peut-être est-ce que RTV va rapatrier la série pour qu'on puisse le voir. Sait-on jamais. Sinon, la seule autre critique qu'on peut avoir notamment, c'est que le Nico en question est pas très... Il n'est pas aussi marquant que Damien. Il est peut-être... je sais pas. Il y a quelque chose qui ne marchait peut-être pas entre Jean-François Ruel et... comment il s'appelle? Il s'appelle Willy. Le véritable acteur. Willy. Willy Cartier. De son vrai nom. Il a techniquement le même âge que Jean-François Ruel. Mais en tout cas, il semble-t-il qu'il est moins charismatique que Damien. Ce Nico est un peu moins charismatique que Damien. Sait-on jamais. Et sinon, en terminant, faut le donner quand ça arrive. Des fois, le parti de François Legault fait des trucs qui sont importants. Ça a pris du temps. Ça a été un peu trop tard, mais finalement, il y aura un projet de loi numéro 105 qui sera déposé pour... contrer les manifestations anti-vaccins. Depuis quelques semaines déjà, les têtes d'affiche des anti-vaccins se plantaient devant les écoles primaires et secondaires, utilisaient des porte-voix et criaient aux enfants d'arrêter de se faire vacciner. ou en tout cas crier aux adolescents, arrêtez de vous faire vacciner, vous faites mentir, vous faites laver le cerveau, etc., etc. Le problème, c'est qu'il était dans les cours d'école. Il était pas sur le trottoir ou l'autre. Ben en fait, il était pas tout le temps sur le trottoir ou de l'autre bord du trottoir. Souvent, il était quasiment dans la cour d'école pour écœurer les enfants. Il y a de plus en plus de gens qui disaient que ça avait pas de bon sens. Il a fallu que cette semaine, il y ait des gens qui se présentent pour contre-manifester devant notamment François Malega et Pascal Zourlou, candidats du Parti libre dans la Chine, Villemort, qui a terminé avec 136 voix ou un affaire de même, qui vont écœurer des enfants dans les cours d'école. A fallu qu'il y ait, c'est ça, une contre-manifestation, a fallu qu'il y ait des gens qui aillent mettre de la musique plus fort, qui aillent se mettre devant François Malega avec eux-mêmes des porte-voix pour dire à Malega menteur, à Malega tais-toi, à Malega désinformateur. Fait que tu sais qu'il a fallu qu'il se passe de quoi pour que finalement le gouvernement réagisse. Et a fallu également des manifestations devant les portes d'hôpitaux il y a quelques semaines pour que, là, c'est plus correct. Là, ça prend un projet de loi, faut que ça passe. Donc, trop tard, jamais mieux que trop tard que jamais, un projet de loi a été déposé, le projet de loi 105, qui comporte cinq articles qui interdit de tenir des manifestations près des établissements de santé et des services sociaux, y compris les cliniques de dépistage de vaccination et les écoles, bien évidemment. Parce qu'ils peuvent aller manifester devant le Parlement, peuvent aller marcher dans les rues, peuvent aller dans n'importe quel parc qui n'est pas adjacent à une école. C'est correct. Sauf que là, ils s'en allaient directement confronter des enfants et des adolescents. Ils sont allés dans des journées de rentrée d'école d'une école primaire. C'est la première journée d'école d'élèves de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il y allait avec des porte-voix. Il y a des enfants qui pleuraient. Eux autres se trouvent justifiés. Les parents, évidemment, de l'école sont en maudit. Qu'est-ce que le gouvernement faisait à ce moment-là? Rien pantoute. Puis c'était il y a un mois et demi. Là, ça finalement, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé. Ils ont fini par convaincre Claire Samson du Parti conservateur de voter en ce sens. La variante qu'il y aura, c'est qu'au 30 jours, cette restriction-là sera renouvelée tant et aussi longtemps que l'état d'urgence est toujours en vigueur au Québec. Donc, tant et aussi longtemps que l'état d'urgence est en vigueur, l'interdiction de manifester de manière à ce que ça soit pour être anti-vaccin et d'écœurer des enfants, ça ne sera pas respecté. Parce que si jamais les professeurs voulaient débrayer, voulaient faire des chaînes humaines devant les écoles ou quoi que ce soit, ça, c'est encore autorisé. C'est normal. Le ministre de l'Éducation, il est pourri. Fait que c'est normal que ces manifestations-là aient lieu. Mais dans le cas des manifestations anti-vaccins, de crier à des enfants, arrêtez de vous faire vacciner, vous faites brainwasher, ça n'a pas de maudit sens. Et il était temps que y ait des conséquences. Serait interdite aussi l'organisation ou l'incitation à organiser de telles manifestations. Les contrevenants seraient passibles d'amendes de 1 000 à 6 000 $. Quiconque menacerait ou intimiderait une personne qui se rend dans les endroits nommés dans le projet de loi, tenterait d'y accéder ou en sortirait, serait passible à ce moment-là d'une amende de 2 000 à 12 000 $. Le 12 000 risque d'être pour les organisateurs, comme le serait François Malega ou Pascal Zourlou-Antonin qui organise ce genre de manifestation-là. Donc, faut rendre justice quand c'est bien fait. Il était temps que le projet de loi soit soumis et finalement ça a été approuvé par l'entièreté de l'Assemblée. 124 à 125 avec un 125 qui s'est prononcé, qui a été dans les indécis. Voilà. Donc il s'est pas présenté pour ou contre, mais dans les indécis. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h à Chiz 94.3. T'es aux études, à la recherche d'un emploi stimulant et diversifié? Tu veux fusionner études, travail et passion avec une équipe dynamique et sympathique? ADM Sport a besoin de ton talent, ton enthousiasme et ton ambition. Nos passionnés de véhicules récréatifs recherchent des conseillers aux ventes, département des vêtements. On t'offre un salaire compétitif, une prime annuelle, des rabais employés fort intéressants et même une formation à ton arrivée. Joins-toi à la grande famille ADM Sport. Envoie ton CV à ressources.humaines@commercialadmsport.com.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou